Radio Prague, les informations.
Le Sénat a ratifié la loi sur le partenariat enregistré. Trois nouvelles tentes ont été montées à Prague pour venir en aide aux sans-abri qui souffrent du froid. Économie, la République tchèque a du retard dans le prélèvement des fonds structurels européens. Le Sénat a ratifié ce jeudi la loi sur le partenariat enregistré. 45 des 65 sénateurs présents ont voté pour. Il ne manque donc plus désormais que la signature du président de la République pour que le texte réglementant la vie en commun des couples homosexuels entre en vigueur. La République tchèque deviendrait ainsi le premier pays post-communiste et le 13e pays européen à permettre aux personnes du même sexe de conclure un contrat proche du pacte civil de solidarité en France. Cette nouvelle législation offrira la possibilité aux couples gays et lesbiens de contracter une union et d'inscrire leurs relations sur les registres d'état civil, démarches qui leur permettront entre autres d'obtenir un accès aux informations relatives à l'état de santé de leur partenaire lors d'une hospitalisation ou encore de posséder un droit d'héritage semblable à celui des couples hétérosexuels mariés. En revanche, si la loi autorise les couples à élever un enfant, elle ne leur permet pas d'en adopter. Trois nouvelles tentes de l'armée ont été montées ce jeudi sur l'esplanade de l'Etna, à proximité du centre de Prague, pour venir en aide aux sans-abri qui souffrent du froid qui règne depuis le début de la semaine en République tchèque. Ces trois abris provisoires s'ajoutent aux cinq autres tentes installées mardi soir, alors que le thermomètre était descendu à moins 15 degrés. 150 lits sont donc désormais disponibles pour les SDF pragois, alors que dans la nuit de mercredi à jeudi, environ 200 personnes s'étaient rendues au camp humanitaire qui n'est ouvert que la nuit. Au moins 10 personnes, principalement des sans-abri, sont déjà mortes du froid depuis dimanche dernier. Économie, la République tchèque a du retard dans le prélèvement d'argent en provenance des fonds structurels européens. Selon la commissaire polonaise, responsable de la politique régionale, Danuta Hübner, depuis son entrée dans l'Union européenne en mai 2004, Prague n'a utilisé que 18 à 20% des quelque 2,6 milliards d'euros qui lui ont été attribués pour la période 2004-2006. Ainsi, en 2005, la République tchèque n'a utilisé qu'un peu moins de 210 millions d'euros. Sur la même période, c'est environ deux fois moins que la Hongrie et cinq fois moins que la Pologne. Météo, vendredi, journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, le thermomètre continue d'indiquer des températures négatives qui se situent entre moins 15 et moins 12 degrés pour les minimales et entre moins 4 et moins 2 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention et restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Éliminer la dioxine de l'usine chimique Spolana, tel est l'objectif du projet de dépollution lancé par le gouvernement tchèque et en partie réalisé par une société française. La République tchèque occupe la quatrième place au classement écologique global. Un homme d'affaires controversé a été assassiné à Prague. Projet de création de l'Institut tchèque de la mémoire. Voilà les thèmes de cette émission, préparée pour vous par l'ensemble de la section française de Radio Prague. Bonne écoute. Et nous partons tout de suite en direction de Neratovice, à quelques kilomètres au nord de Prague, et plus exactement à l'usine chimique Spolana, au bord de l'Elbe. Spolana, pour tous les Tchèques, est synonyme de pollution ou pire, de catastrophe écologique. Aujourd'hui, le gouvernement veut commencer à nettoyer ce site, mondialement réputé pour les matières toxiques que l'on y trouve, notamment de la dioxine de type Seveso, la plus nocive. Cette semaine, un important projet de dépollution a été inauguré. Alexis Rosenzweig était sur place.
Les travaux de préparation sont en phase terminale. D'ici peu de temps, on ne pourra plus pénétrer sans protection dans les infrastructures construites autour du bâtiment à dépolluer. Un bâtiment laissé en l'état depuis près de 40 ans, fermé en raison des maladies contractées par les ouvriers. De 1965 à 1968, Spolana fabriquait dans cette unité un pesticide dont la composition était identique au fameux agent orange utilisé par l'armée américaine au Vietnam. Tous les ouvriers qui ont travaillé dans cette enceinte seraient décédés, le dernier d'entre eux l'année dernière. Laurent Bickert est directeur des projets pour la société Suez Environnement, chargé à sa filiale tchèque Cita de dépolluer ce site avec une société anglaise.
Des mesures ont été faites sur ce bâtiment montrant des taux de contamination en dioxine exceptionnels. Le cahier des charges était donc de trouver une solution pour traiter et dépolluer les sols et les bâtiments, avec une solution qui protège l'environnement, bien sûr, qui assure la sécurité des habitants qui sont juste derrière ce bâtiment, qui assure la sécurité des ouvriers qui continuent à travailler sur le site de Spolana, de la plateforme Spolana, et qui permettent à nos ouvriers, à notre personnel, de travailler dans de bonnes conditions.
160 ouvriers, équipés de scaphandres pour certains, vont être chargés pendant 2 ans de traiter près de 35 000 tonnes de déchets toxiques à l'aide d'un procédé spécial dans un espace hermétiquement fermé.
Ici, c'est vraiment le cœur du procédé, c'est le procédé BCD, une décomposition basique catalytique, procédé américain donc. On récupère tous les produits chimiques qu'on a pu trouver sur le site. On récupère toutes les poussières contaminées aux dioxines qu'on a pu récupérer dans les bâtiments. On récupère les poussières qu'on a récupérées dans au bas du cyclone du traitement de fumée. On récupère tout ce qui est liquide et on va mélanger ça à de l'huile. On en fait une espèce de bouillie avec de l'huile qu'on mélange avec de la soude et qu'on mélange avec un catalyseur dans un énorme réacteur que vous devez apercevoir qui est au centre de tout. Et on monte le tout, on chauffe le tout à 350 degrés.
Cet immense projet représente pour les autorités tchèques un investissement de 90 millions d'euros, financé grâce aux privatisations. Un projet assez exceptionnel pour plusieurs raisons, comme le souligne Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez Environnement.
Il y a d'abord le niveau de contamination du site à dépolluer. Des niveaux 1000 fois supérieurs aux normes OMS, ça commence à faire, je veux dire, des niveaux vraiment très élevés. Deuxièmement, le double souhait du gouvernement, un, de traiter la pollution sur site, et deuxièmement, de ne pas utiliser d'incinération qui a comme possible inconvénient que à la fin du processus d'incinération, vous avez des fumées, même si vous les traitez bien, vous avez un petit risque en cas de malfonctionnement d'avoir soit des NOx, soit des dioxines. Donc, c'est les trois contraintes auxquelles nous avons été confrontés et c'est ça qui nous ont amenés à faire le projet tel qu'il a été conçu ici. C'est-à-dire, vous l'avez vu, avec différentes étapes, avec un premier traitement dans lequel vous séparez les 30 et quelques mille tonnes de terre et matériaux pollués pour que vous puissiez simplement récupérer, j'allais dire, 1000 tonnes fortement concentrées sous forme liquide dans lequel vous avez concentré tous les polluants. Bon, et puis ensuite, le processus BCD que vous avez vu, qui est un processus qui permet par voie catalytique d'éviter de passer par une incinération et qui vous permet donc en gros d'éliminer le polluant ou quasi tous les polluants puisqu'il ne restera plus après qu'une 50aine de tonnes qui là est, j'allais dire, le résidu du résidu du résidu et qu'il faut bien évacuer quelque part. Donc on part de 35 000 tonnes, on arrive à 50 tonnes.
Et à la fin du processus de dépollution prévu pour décembre 2007, ces 50 dernières tonnes de déchets toxiques seront vraisemblablement incinérées à Ostrava.
Pour en savoir plus sur cet impressionnant projet, ne manquez pas demain notre émission économique. La République tchèque occupe la 4e place au classement écologique global, Environmental Sustainability Index, préparé par le Forum économique mondial de cette année à Davos. 133 pays figurent dans ce classement établi par une équipe internationale dirigée par des experts de l'Université de Yale aux États-Unis. Examiné de près, ce succès de la politique environnementale tchèque se révèle cependant assez problématique. C'est la Nouvelle-Zélande qui s'est placée en tête du classement, suivie par la Suède, la Finlande, la Tchéquie et la Grande-Bretagne. Selon ce rapport, la République tchèque a atteint d'excellents résultats dans le traitement des eaux et dans la productivité de l'exploitation des ressources naturelles. Par contre, ces résultats sont plutôt médiocres en ce qui concerne le développement énergétique durable, la qualité de l'air et la diversité biologique. Selon Karolina Šulová, porte-parole du ministère tchèque de l'Environnement, cette excellente position de la Tchéquie ne serait due qu'au choix des indicateurs favorables à la situation dans notre pays.
Loni hodnotili ti sami tvůrci jiným způsobem. L'année dernière, les mêmes auteurs ont examiné la situation d'une autre manière et la République tchèque n'occupait que la 92e position. Elle était l'un des derniers pays de l'Union européenne. Derrière elle, il n'y avait que la Pologne et la Belgique. Notre position est bonne, notamment dans la catégorie de la santé environnementale, qui comprend par exemple l'accès des gens aux services sanitaires et à l'eau potable. Et c'est cela qui nous a valu une si bonne place.
D'après Karolina Šulová, cette année, l'analyse ne prend pas en considération la catégorie où la Tchéquie affronte de sérieux problèmes, notamment la production et le recyclage des déchets, la santé des forêts et l'érosion du sol. On affirme dans le rapport qu'en Tchéquie, il n'y a plus aucun foyer utilisant pour le chauffage des combustibles solides, mais il suffit de visiter n'importe quel village tchèque pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. La situation dans ce domaine s'est considérablement aggravée après les dernières hausses des prix du gaz et de l'électricité. D'ailleurs, les auteurs du rapport eux-mêmes reconnaissent qu'ils se sont heurtés lors de leur travail à des doutes sérieux et des lacunes dans leurs sources d'informations. Ils estiment cependant que l'index donne une image claire de l'orientation environnementale des États y figurant et démontre l'attitude des gouvernements vis-à-vis de l'environnement de leur pays. Mercredi soir, l'homme d'affaires František Mrázek a été tué d'un coup de feu à la sortie des bureaux de sa société à Prague. Meurtre commandité, règlement de compte. La police reste très réservée, mais Mrázek n'était pas un homme d'affaires comme les autres. Alain Slimanski s'est intéressé à ce fait divers.
František Mrázek, un homme d'affaires quelque peu différent de ses collègues tchèques, certainement, car il travaillait avec Tomáš Pitel, qui fait l'objet d'une enquête policière et est soupçonné de divers délits financiers en premier lieu. Le même Tomáš Pitel, qui a fait la une de la presse en revenant de vacances à l'étranger, pour se soustraire à un mandat d'arrêt international lancé contre sa personne. Le même Tomáš Pitel, qui serait très lié à un autre homme d'affaires tchèque en fuite, lui, Radovan Krejčíř, qui s'était échappé lors d'une perquisition à son domicile pour se réfugier aux Seychelles. František Mrázek n'était donc pas le monsieur tout le monde des affaires. Son assassinat n'est certainement pas dû au hasard, d'après les informations qui ont filtré, bien que la police ne soit pas très loquace, il semble qu'il ait bien été la victime d'un meurtre commandité. Il n'a été tué que d'un seul coup de feu et certaines sources laissent entendre qu'une munition spéciale aurait été utilisée. Règlement de compte ou liquidation pure et simple d'un témoin ou d'une personne encombrante, Tomáš Pitel a déclaré à la police qu'il avait quitté les bureaux plus tôt que Mrázek, que ce dernier craignait pour sa vie, ayant déjà été victime d'une tentative de meurtre, et utilisait une voiture blindée. Il fut l'un des premiers à confirmer qu'il s'agissait bien de son collègue.
Malheureusement, je ne peux que confirmer que M. Mrázek a été tué d'un coup de feu.
Un autre homme d'affaires qui avait travaillé avec František Mrázek a été victime d'une tentative de meurtre au mois de mai de l'année dernière. Jaroslav Starka avait essuyé 11 coups de feu devant sa maison de Příbram au sud de Prague. Certains l'avaient touché, mais les blessures n'étaient pas graves. Intéressant de savoir que Jaroslav Starka est actuellement l'objet d'une enquête de la police en liaison justement avec l'affaire Krejčíř. Le meurtre d'un autre homme d'affaires encore, Peter Šebesta, a eu lieu en 2003. Lui aussi était lié à Tomáš Pitel, ce dernier de Roman Krejčíř. Coïncidence? Certainement pas, d'après certains commentaires dans les journaux. Qui sont donc ces hommes d'affaires obligés de fuir ou qui sont victimes de tentatives d'assassinat? D'après l'hebdomadaire Respect, ce sont des personnes qui ont pleinement exploité la situation dans les années 90. Ces nouveaux riches ont racheté des dizaines de sociétés, les ont conduites à la faillite pour récupérer leurs biens après avoir liquidé leurs dettes par l'intermédiaire de tiers, ce qu'on appelle des chevaux blancs en Tchéquie et de sociétés bidons. Pas étonnant donc que certaines « affaires » entre guillemets se règlent par des coups de feu et non autour d'une table.
Les sénateurs se sont prononcés mercredi en faveur de la fondation de l'Institut tchèque de la mémoire qui permettrait de faire la lumière sur les crimes du communisme. Toujours à propos de ce sujet sensible, ce même jour, la Chambre haute a soutenu la résolution du Conseil de l'Europe condamnant les violations massives des droits de l'homme par les régimes communistes. Magdalena Segertova résume.
Il s'agit déjà de la troisième initiative parlementaire de créer, à l'instar de la Slovaquie et des autres pays de l'ancien bloc soviétique, l'Institut tchèque de la mémoire. Il compléterait en quelque sorte le travail de l'Office de l'enquête sur les crimes du communisme, abrégé en tchèque en l'UDV. Ce serait donc un institut indépendant chargé d'examiner mieux les archives, de les numériser et de reconstituer, malgré la destruction de documents importants après 1989, l'action de la police secrète communiste. Il pourrait aussi dissiper le flou qui entoure aujourd'hui encore certains crimes communistes. Le but n'est pas de compromettre des gens, mais de comprendre le mécanisme du pouvoir totalitaire en Tchécoslovaquie, explique dans la presse l'historien Radek Schovanek. L'Institut de la mémoire aurait également une mission éducative et informative, mais le projet de loi relatif à sa création ne sera soumis à la Chambre des députés qu'après les élections législatives de juin 2006. À l'issue d'un débat houleux, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a condamné mercredi les crimes commis par les régimes communistes européens. Les sénateurs tchèques n'ont pas tardé à applaudir une telle démarche, ils l'ont soutenue presque à l'unanimité. La résolution n'a qu'une valeur symbolique, néanmoins elle appelle les partis communistes et post-communistes à revoir leur passé et à se distancier des crimes perpétrés par les régimes totalitaires. Le parti communiste tchèque, son aile conservatrice en particulier, reste opposé à cette initiative du Conseil de l'Europe. En revanche, les anticommunistes ont lancé la semaine dernière une pétition en faveur de la résolution, signée à ce jour par presque 3000 personnes.
Fin de ce fait événement, une émission de la section française de Radio Prague, présentée aujourd'hui par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Un craquement se fait surgir la flamme. L'allumette brûle. Un objet simple, discret, mais utile. Il est bien connu que la découverte de ce petit miracle date des années 20 et 30 du XIXe siècle. Mais il est moins connu qu'en 1839, le menuisier Wojciech Scheinost commence la fabrication manuelle d'allumettes à Suchice, en Bohême du Sud-Ouest. Un an plus tard, il s'associe à Bernard Fürth, commerçant d'origine juive. En 1843, Wojciech Scheinost vend, en raison de difficultés financières, toute la maison à son associé. En 6 ans, Bernard Fürth introduit dans son usine une technologie moderne, agrandit les locaux et réussit à acquérir les marchés des États-Unis, de l'Europe et de l'Orient. Après son décès, l'usine d'allumettes revient à ses enfants. L'entreprise se développe rapidement et devient la plus grande usine de production d'allumettes de l'Autriche-Hongrie. L'introduction de la production d'allumettes exempte le phosphore blanc, si dangereux pour la santé, permet la domination des marchés du Proche-Orient, d'Australie, de Chine et d'Afrique. En janvier 1903, le holding Solo, associant 6 usines des plus importantes de l'Autriche-Hongrie, est constitué à Vienne. L'usine d'allumettes de Suchice en fait évidemment partie et prend la forme juridique d'une société par action. 10 ans plus tard, le petit-fils de Bernard Fürth, Ernst, devient le directeur général de Solo, société par action. Ernst Fürth, né en 1865, était un homme honnête, travailleur, juste, intelligent, cultivé, à l'esprit inventif. Il aimait beaucoup à se balader à travers les forêts de la Shumava, se baigner dans ses rivières à l'eau fraîche, observer les animaux, la nature, suivre la trace du gibier sans le chasser, cueillir les fruits rouges et les champignons. Pour lui, il va de soi qu'il suivra la trace de ses ancêtres et continuera la production d'allumettes dans l'entreprise familiale. Il en sera de même pour son frère Bernard. Après avoir terminé ses études de chimie, il part à l'étranger pour acquérir de nouvelles expériences. Ainsi, il a l'occasion de voir la production d'allumettes ultramodernes en Angleterre, en Suède et aux États-Unis. Au retour en Bohême, il se met immédiatement à moderniser l'usine de Sushice. Une nouvelle technologie améliore la qualité de la production et entraîne une croissance considérable. En 1913, Ernst Fürth devient directeur général de la Solo, société par action, et déménage avec sa famille à Vienne. Entre les deux guerres, l'usine de Sushice prend un essor remarquable. Ernst Fürth, qui, lors de la constitution de la Tchécoslovaquie en 1918, adopte avec enthousiasme les principes démocratiques de la Nouvelle République, crée pour ses employés un système de sécurité sociale très performant. Il s'agit de tout un système d'assurance accidents et maladies, mais surtout la création d'un centre de services sociaux. Malheureusement, la crise des années 30 n'épargne pas la société Solo. Mais même une situation économique peu enviable n'oblige pas Ernst Fürth à accepter la proposition de crédit du grand exploitant suédois Ivan Kruger, conditionné par la surveillance de la production et de la distribution effectuée par le monopole suédois Kruger. Aujourd'hui, c'est Swedish Match. La guerre menaçante oblige la famille à quitter Vienne pour un exil en France. Un choix peu chanceux. Car en 1942, Ernst Fürth est déporté au camp de concentration à Drancy, où il meurt en janvier 1943. La famille d'Ernst Fürth, vivant aux États-Unis, avait fait installer une plaque commémorative qui a été découverte en septembre 1998 dans le hall d'entrée de l'entreprise Solo Sushice. En cette même année, la famille a fondé la bourse d'Ernst Fürth, destinée aux universitaires ayant étudié au lycée de Sushice et dont les parents travaillent à Solo Sushice, société par action. Après la guerre, Solo Sushice devient une entreprise de l'État et en début des années 50 commence à produire également des planches en bois fibre appelées sololites. Dans les années 1969 à 1986, l'entreprise est entièrement modernisée. On installe une ligne de production automatique venue de Suède et les allumettes en bois sont remplacées par des allumettes en papier. Même sous le régime totalitaire, les allumettes tchèques regagnent les marchés étrangers. Le produit est exporté en Australie, en Angleterre, aux Émirats, en Zambie et en Malaisie. Le rideau de fer tombe et une société par action Solo Sushice est reconstituée. 7 ans plus tard, on fonde la société Solo Sirkan. Actuellement, il faut bien dire que la société est enregistrée sous le nom de Matches et son siège se trouve à Brno. L'entreprise produit plus de 400 millions de boîtes d'allumettes par année, ce qui représente 2% de la production mondiale. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention. Et bien évidemment, comme toujours, nous sommes prêts à vos idées, remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear